pour le philosophie première par le premier Dominique Philippe, le 8 mai 2002 à Saint-Gédard.
On est toujours en face de ce problème important, puisque la diversification des personnes, les diverses modalités de personnes, la première, c'est la plus importante, elle est fondamentale, elle est pour notre espèce humaine, quant à la nature et quant à la personne, d'une complémentarité qui s'impose à nous. Nous n'avons pas à la choisir. Ceux qui veulent choisir, mais se trompent, il y a la nature. La nature est là, et la première diversité, elle est du côté de la nature, puisqu'elle permet à la nature humaine d'être une nature vivante et féconde. Oui. C'est très même curieux de voir que la science essaie par tous les moyens de supprimer cela. C'est comme disait une fois un brave laboureur, je me souviens, il était dans sa campagne, puis il m'avait arrêté. Il m'a dit, c'est curieux, c'est pourtant si simple d'avoir des enfants, et c'est si beau. Pourquoi qu'on cherche indéfiniment à détourner la nature? Et j'ai trouvé ce raisonnement merveilleux, cet homme qui disait, c'est si simple et si beau. C'est comme celui qui était le gardien des cèdres du Liban. Alors son langage était merveilleux. Parce qu'il me disait toujours, ma femme m'a donné 10 enfants. J'aime bien ce langage. Ma femme m'a donné 10 enfants. Alors, on voit bien la nature, elle est comme ça. Alors, on essaie, par tous les moyens, qu'est-ce qu'on dépense d'argent? Parce qu'on n'accepte pas la nature. Et on laisse les pauvres types mourir de faim et on passe l'argent à des jeux. C'est quand même extraordinaire de voir comme l'homme peut être au fond orgueilleux. Parce que si on se soumet à la nature, on se soumet à la nature. On sait qu'on ne changera pas fondamentalement la nature. Elle est donnée. C'est un donné. Nous sommes un homme, nous sommes une femme. C'est un donné. On ne vous a pas demandé votre vie. Ce qui est bon. On ne vous a pas demandé votre âge. Et vous êtes obligé de le constater. Et si vous ne le constatez pas, vous manquez d'un réalisme élémentaire, fondamental, premier, celui-là. Alors on doit plutôt, c'est ce que nous voulons faire, on doit plutôt regarder, étant donné cette diversité fondamentale au point de vue de la nature d'un vivant, l'opération la plus parfaite pour la nature du vivant, c'est d'engendrer. c'est ça qui fait comprendre la nature dans le sens très très radical. Et donc, au point de vue nature, il y a la diversité homme-femme pour la procréation. La procréation est une œuvre de la nature du vivant, et du vivant qui implique le point de vue du corps et donc qui implique la corruptibilité, la mort. Un vivant temporel lutte contre ce point de vue temporel par la procréation, qui fait la continuité, la victoire à l'égard du temps. La victoire à l'égard du temps, c'est cela. L'espèce humaine continue d'exister. Et quand elle est trop intelligente, au point de vue science, elle ne continue pas. Il n'y a plus de mort que de, vie, que de naissance. Quand la culture, ce qui prouve que la culture est mauvaise, hein, la culture telle qu'elle est conçue actuellement, puisqu'il y a ce phénomène tout simple, plus de mort que de naissance, et donc une déperdition au niveau nature. S'il y a des versions pour une nature, c'est qu'il y a un pneu crevé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça me semble très élémentaire comme regard. C'est le bon regard du laboureur qui dit « Pourquoi tant d'histoires ?» Parce qu'on perd le sens de la nature. On ne sait plus ce que c'est. Je crois que ça, c'est quand même très très important de voir que la personne se fonde sur la nature. Notre personne ne serait pas grand-chose si elle ne respectait pas la nature. C'est ce qui arrive du reste. Oui, des hommes qui désiraient être femmes, des femmes qui désiraient être hommes, c'est pas fameux, hein. C'est jamais fameux, ça. C'est quelque chose qui va contre la nature. Et ce qui va contre la nature va nécessairement contre l'auteur de la nature. Et contre l'humanité dans ce qu'elle a de fondamental. Je crois que ça, c'est une constatation la plus élémentaire, mais philosophiquement la plus fondamentale. Et qu'on retrouve dans toutes les civilisations différemment. Et dans les diverses civilisations, c'est extrêmement curieux de voir cette rivalité constante. Il y a une rivalité. Est-ce que la femme passe avant? Est-ce que l'homme passe avant? Comme ils sont tous les deux nécessaires, on voit cette rivalité. Et quand on désire que l'un ne soit plus nécessaire et que seule la femme permettrait la procréation, il y a derrière quelque chose. Ce n'est pas selon la nature. Et au fond, on est en face de ce problème. Est-ce que la civilisation peut dépasser la nature? Au point de vue pensée, constamment, on désire que notre civilisation soit commandée par les mathématiques. Et les mathématiques ont l'immense avantage de n'être ni féminine ni masculine. elle est neutre. Les mathématiques n'ont pas de finalité. Et donc, la cause exemplaire, uniquement, la mesure. Et c'est ça qui commande la civilisation d'aujourd'hui. On peut mettre la nature entre parenthèses et puis se forger une nouvelle civilisation. C'est curieux. Comme si la nature rappelait l'existence de quelqu'un qu'on voudrait bien qu'il n'existe pas. Et c'est vrai. Nietzsche a très bien compris que la nature, dans sa puissance, rappelle Dieu. Et quand la nature disparaît, c'est l'homme. Et dit ça magnifiquement. Il dit l'océan, le désert, la montagne. Quand on est en face de ça, on dit Dieu. Et au fond, quand on est au cœur d'une ville, on dit l'homme. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit regarder au point de vue philosophique. Le pourquoi de cet désir fondamental actuellement. Tient tout le monde en suspens. Et il paraît qu'on va très vite dans ces progrès maintenant. Donc, alors, ça se rappelle, au point de vue nature, l'homme et la femme sont indispensables, jusqu'au nouvel ordre, sont indispensables à la fécondité, c'est-à-dire à l'opération naturelle la plus parfaite, au point de vue vie végétative. Au point de vue végétative, c'est-à-dire au point de vue de la continuité de l'espèce. C'est quand même un devoir naturel, la continuité de l'espèce. Il faut une finalité divine pour dépasser cette finalité-là. Il faut une finalité transcendantale. Il n'y a que, au point de vue profond, il n'y a que la contemplation à l'égard de Dieu. La contemplation vers Dieu qui peut seul dispenser de la procréation. Et ça fait partie de la personne, ça, vous voyez. On le verra. Et forcément. Alors là, c'est le dépassement de la personne à l'égard de la nature. Et au fond, c'est le gros problème constant. La personne qui dépasse la nature. La nature est dépassée par la personne. Et la finalité de la personne peut l'emporter et faire que on néglige volontairement. Donc, on dépasse, puisque c'est pas négligé. C'est dépasser le devoir de la procréation par amour pour Dieu. Alors, il faut évidemment qu'on ait posé le problème de l'existence de Dieu pour expliciter ça. Et c'est au fond le gros problème de la personne dans sa finalité propre, qui peut alors dominer la nature. Et au fond, le problème de la consécration à Dieu, de la consécration au Christ, c'est toujours la personne qui domine la nature. La nature est là, toujours, et elle appelle un appétit naturel à la procréation. Ça, vous ne supprimez pas cet appétit naturel, mais vous l'assumez. Et il doit être assumé. Quand la personne n'est pas suffisamment forte, la nature crie plus fort que la personne, et c'est la nature qui l'emporte. C'est très important et très intéressant de voir cette espèce de rivalité constante en nous, nature-personne. La personne ne peut pas exister sans la nature. Mais la personne va plus loin que la nature. De fait. Alors elle peut avoir des exigences que la nature ne comprend pas. Hein. La nature humaine, si vous la prenez dans sa vie végétative, la nature humaine ne comprend pas le fait du célibat. Ne comprend pas du tout. Vous n'arriverez jamais à faire comprendre à votre nature ça. C'est le dépassement. Et ce dépassement est personnel. Hein. Donc, complémentarité, cette complémentarité au plan de la procréation est nette. Mais cette complémentarité fait que la fonction ou le rôle de l'homme et de la femme ne sont pas les mêmes. Et au point de vue nature, la nature diversifie l'homme et la femme. Quant au corps, cause matérielle, en vue de la procréation. Donc, cette complémentarité est fondamentale. Je ne peux pas la bouger, moi. Et si on était intelligent, on verrait qu'on perd son temps à vouloir la changer. C'est le bon paysan laboureur a raison de dire qu'on perd son temps. Mais la culture humaine pousse l'homme quelquefois, à des folies, à des exagérations. Être libéré de la nature. Et ça se voit de 36 façons. Et c'est très important de regarder ça au point de vue de la personne. Parce que c'est la personne qui fait ça. La personne humaine n'accepte pas la nature. Vous êtes limité par votre nature. Vous êtes embarqué par votre nature dans un sens que vous n'avez pas choisi et que vous reconnaissez avec joie et avec amour. Pas toujours. Et c'est la chose la plus fondamentale. Reconnaître notre nature. Parce que nous ne pouvons pas la changer. Et notre personne développe notre nature. Mais elle développe notre nature dans un sens de notre personne, pas toujours de notre nature. Bon, une fois qu'on a bien compris que c'est un problème de nature et que le problème de la personne vient et s'enracine dans cette diversité de nature, nous pouvons essayer de comprendre dans la personne la répercussion de la nature sur la personne. Alors, je pars sur la complémentarité. Donc, je pars sur la nature, homme-femme. Dans le problème de la procréation, dans le problème de l'éducation. La mère, puisque ça c'est la mère a un rôle de disposition. Et je crois que là, c'est juste. Alors, Aristote dit, la mère est toujours ex parte materiae. J'aime mieux dire, elle est du côté de la disposition. C'est plus juste, du reste. Et elle dispose. Et un rôle de disposition, c'est vrai que c'est toujours ex parte materiae, mais quand on voit disposition, on voit par rapport à la fin. C'est la matière vers la fin, la disposition. C'est la matière qui est tout entière donnée à la finalité. Alors, elle dispose tout. La femme dispose tout. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus attentive aux détails que l'homme. C'est un fait, ça. Un homme qui est toujours attentif aux détails, c'est assommant. C'est contraire à sa nature. Une femme, une mère, qui est très attentive aux détails, c'est normal. Elle est du côté matériel. Du côté matériel, ça ne veut pas dire qu'elle a un rôle second. Non, elle a un rôle fondamental. Puisqu'ils coopèrent. Alors, dans la coopération, ils sont deux. Et ils sont unis les deux. Mais on peut regarder dans cette coopération un rôle fondamental qui est par le fait même premier et qui par le fait même est beaucoup plus étendu que le rôle de l'homme. L'homme est beaucoup plus libre à l'égard de la procréation que la femme, c'est bien évident. La formation du fœtus, de l'embryon, se fait dans la mère. Elle est le milieu. Et le milieu, c'est la disposition. Un milieu joue toujours le rôle de disposition. Et c'est pour ça qu'un milieu, c'est très difficile à changer. Parce que le milieu, en effet, est du côté de la matière, il est toujours fondamental, et il enveloppe. C'est une causalité enveloppante, c'est-à-dire une causalité qui tient, qui attire à elle et qui, pour se développer, a un instinct possessif. Cet instinct possessif est naturel. Ça fait partie de la disposition pour le vivant. Et qui fait que ça, on ne peut pas le remplacer. ça ne peut pas se remplacer. On fait bien quand il y a une obligation de hâter la naissance et que le petit enfant est obligé de vivre sous une surveillance très particulière pour ceux qui naissent avant la date normale, c'est-à-dire avant d'être formés suffisamment. On essaie des couveuses électriques. Mais c'est, on voit combien c'est difficile dans tous les détails de remplacer la disposition, de remplacer le nid, parce que c'est le nid, ça. Le nid est toujours dispositif et permet aux fruits de se développer et d'être lui-même. Et au fond, ça ne se remplace pas. Et on ne peut pas le remplacer. La causalité matérielle étant fondamentale, on ne peut pas la remplacer. Et on le sait bien, on essaie par tous les moyens de la renforcer, de la permettre d'être seule. Mais la causalité matérielle de la disposition ne peut pas aboutir au terme seule. On arrive à faire peut-être des choses monstrueuses, un développement très étonnant, mais monstrueux, parce qu'il n'est pas déterminé suffisamment. L'inconvénient de la disposition, c'est l'indétermination. C'est en même temps ce qui lui permet d'être nid, premier milieu. Il y a, au point de vue philosophique, à étudier de très près ce qu'est la causalité dispositive du côté de la matière et à suivre toutes ces recherches actuelles en pensant les dispositions. Parce que c'est la seule manière de les suivre intelligemment, de voir jusqu'où ça peut aller, sans l'intervention d'une causalité formelle. Le jeu des causalités dispositives et des causalités formelles sont à l'égard de la procréation en pleine lumière. Vous voyez, on peut dire que la procréation est quand même le sommet de toute la vie végétative. La procréation pour l'homme est plus parfaite que pour l'animal. Évidemment, il y a des animaux qui sont plus importants que l'homme, comme l'éléphant, mais c'est important quantitativement qu'on puisse arriver à modifier la procréation des animaux. Ce n'est pas à cause de ça qu'on puisse modifier la procréation pour l'homme. Même si on voit que pour l'animal, c'est possible, voir les résultats, ça ne prouve pas que pour l'homme c'est possible. Parce que l'homme à une nature plus parfaite. On est tous d'accord que la nature humaine, c'est le sommet de la nature. L'évolution se termine à l'homme. Après, ce sont des dégradations, plus faciles à voir. Mais l'évolution se termine à l'homme, la montée de l'évolution. On n'a pas encore découvert un super-homme qui ait des ailes à la place d'avoir des mondiaux et qui puisse voler et qui puisse faire tout ce que l'aigle peut faire tout ce que le lion peut faire. Non. Et c'est vraiment la procréation et le sommet de la philosophie de la nature. Alors, c'est très intéressant de voir jusqu'où peut aller la causalité dispositive. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante. Suivre tous ces recherches scientifiques, évidemment, je ne les approuve pas moralement. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'orgueil de l'homme qui soutient tout ça, qui veut dominer la nature. Mais indépendamment de ça, au point de vue connaissance, c'est très intéressant de voir jusqu'où peut aller la causalité dispositive. Alors, je prends maintenant, au point de vue philosophique, ce qui est naturel. Et dans ce qui est plus naturel, la mère, la femme a un sens très aigu de tout ce qui est de l'ordre de la disposition. Et l'homme, s'il est intelligent, doit le savoir. Et donc, il s'en remet constamment à la femme pour tout ce qui est disposition. L'homme va trop vite pour la disposition. Il pense pouvoir tout de suite arriver à la détermination. C'est ce qu'on dit ordinairement, que l'homme est beaucoup plus logique que la femme. Et d'où ça vient? C'est que la disposition est allogique, puisque c'est partie de la matière. Elle enveloppe. Elle fait le nid. Et le nid existe partout. Hein. Dès qu'il y a une famille, la famille, c'est le nid. Et ce qui forme le nid, c'est toujours le côté de la disposition. Regardez chez les animaux, chez les oiseaux. La manière différente dont le mâle et la femelle font le nid. Ils ne font pas de la même façon. C'est la femelle qui fait le nid. Disposition. Et elle comprend tout de suite si ses dispositions sont bonnes ou mauvaises. Elles sont bonnes ou mauvaises, pas en raison de la disposition, mais en raison de la finalité. C'est pour ça qu'actuellement, dans toutes ces recherches de l'ordre de la disposition, elles sont bonnes ou mauvaises en fonction de la finalité. Mais la finalité, personne ne la regarde. Parce que la finalité, c'est la création de l'âme. Elle nous échappe. Et c'est ça qu'on voudrait, justement par la disposition, arriver sans regarder l'âme. Et c'est vrai, le savant cherche à perfectionner de plus en plus la disposition. Là, il est le maître, l'artiste, il domine, mais disposition bonne, disposition mauvaise, la finalité. Et quelle est la finalité dans la procréation ? c'est la création de l'âme. S'il y a une âme, c'est l'âme qui finalise. L'âme est forme et fin. Donc la disposition sera bonne ou mauvaise en fonction de l'âme. Alors, ceux qui nient l'âme, parce que tout cela qui cherche actuellement à modifier le point de vue de la procréation, nient l'âme, parce que s'ils acceptaient l'âme, je crois qu'ils ne chercheraient pas tant. Mais ils nient l'âme, donc ils veulent découvrir la disposition pour elle-même. Et c'est là où je crois que ça ne peut pas aboutir. Alors, le problème, c'est de savoir, puisque la disposition, elle est ordonnée à l'âme, et que l'âme est créée par Dieu. Est-ce que Dieu va répondre à l'homme qui ne voit que la disposition? Est-ce que Dieu va lui répondre? Là, ça, c'est un problème philosophique, hein, puisque Dieu n'est pas en dehors de la philosophie. Et c'est le grand problème pour nous qui avons accepté et qui avons découvert qu'il y a le corps et l'âme, et que l'âme ne vient ni de l'homme ni de la femme. L'âme vient de Dieu. Alors, est-ce que on peut télescoper autant qu'on le peut la présence de l'homme, uniquement regarder la disposition et travailler à la disposition, et que Dieu répondra? Enfin, si on veut suivre le problème d'une façon intelligente et philosophique, c'est comme ça qu'on doit le suivre. Puisque l'homme est mis entre parenthèses. C'est un problème ultime au point de vue humain. Jusqu'où l'homme pourra arriver à transformer la nature? Alors, c'est au moment de la procréation, le moment le plus important. Oui, donc, j'allais presque dire, c'est un problème fin du monde, ça. C'est vrai, c'est un problème de fin du monde. C'est un problème qui touche à quelque chose d'ultime. La nature humaine est quelque chose d'ultime, et la procréation pour la nature humaine est quelque chose d'ultime. Donc l'ultime de l'ultime, c'est bien ça. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Alors, revenons au réel, non pas au possible. La femme, c'est la disposition. L'homme, c'est la détermination. Il y aurait beaucoup à dire, hein, disposition, détermination. Mais la disposition de la femme, son rôle propre, est aussi un rôle ultime. C'est très curieux. Elle est au point de départ, elle est au terme. Elle est au terme. L'homme aussi est au terme. La contemplation de la femme est-elle plus parfaite que la contemplation de l'homme? la contemplation philosophique, hein. Je ne parle pas de la contemplation, mais divine, surnaturelle. La contemplation philosophique. La femme est très nettement supérieure à l'homme dans l'ordre de la disposition. Ça, c'est sûr. Ça se voit tout de suite. Dans un foyer, si le rôle de la femme, le rôle de la mère est respecté, c'est elle qui organise tout au point de vue de la vie humaine. Elle organise du côté de la disposition. Et l'homme est là pour préciser et apporter une précision rationnelle, humaine. Du côté de la finalité, c'est-à-dire la contemplation, ce qui est quand même un point de vue ultime. Je crois que là, il y a une complémentarité. Tous les deux, au point de vue personnel, tendent vers cette contemplation. Est-ce que ils peuvent céder ou est-ce qu'ils sont en parallèle? Est-ce que c'est un problème très important qui est au fond le problème de l'amitié? L'amitié n'est pas la fin dernière. La fin dernière de l'homme, c'est la contemplation de Dieu. L'adoration et la contemplation. Est-ce que, et c'est le problème de la personne dans ce qu'elle a de plus elle-même, c'est la personne qui contemple, c'est pas la nature. C'est la personne qui contemple Dieu, qui contemple le Créateur, qui adore. Est-ce que il y a complémentarité de l'homme et de la femme pour la causalité finale, pour cette contemplation? Alors, il faut bien regarder. Nous sommes au niveau de la sagesse, là. C'est la sagesse. La science ne contemple pas. La science, celle qu'on appelle aujourd'hui, elle regarde les causes secondes, les causes particulières. Donc elle ne contemple pas. La science se finalise très souvent par l'efficacité. La science mathématique se finalise très souvent par l'efficacité. Grâce à ces calculs mathématiques, je peux arriver à une efficacité plus grande. Et là, on s'arrête. Le vrai mathématicien ne cherche pas l'efficacité directe. Il se contente de sa spéculation, mais qui n'est pas une contemplation. Puisque l'être mathématique, c'est la relation. Ce n'est pas la substance. Ce n'est pas la personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contemplation mathématique. Il y a une recherche, il y a un raisonnement mathématique, mais il n'y a pas de contemplation. Il y a des intuitions mathématiques, la découverte de nouvelles relations. Alors, je suis nécessairement au-delà des mathématiques et je suis dans l'ordre de la sagesse. Dans l'ordre de la sagesse, on est en face d'une connaissance affective, aimante. Ce n'est plus la raison. logique. La logique est antérieure. La logique ne me sert de rien, vous prenez bien, à la contemplation proprement dite. Je suis au-delà de la logique. La logique m'aide à m'y préparer. Mais je suis dans la préparation. Et dans la préparation, donc, dans la disposition. La femme a ordinairement, en raison de la disposition qui prime, une affectivité plus développée que l'homme. Et donc, elle peut apporter à la contemplation cette note féminine de l'affectivité. Et cette affectivité n'est jamais seule, puisque c'est la sagesse et l'intelligence qui est à l'intérieur de cette affectivité pour la contemplation. Alors, la contemplation féminine est-elle distincte de la contemplation masculine? Je dirais qu'il y a une modalité affective plus grande du côté de la femme, de la religieuse qui contemple. Mais c'est toujours la contemplation. Et dans la contemplation, on est seul avec Dieu. Donc, la femme est seule avec Dieu. Et l'homme est seul avec Dieu. Il n'y a pas, de temps en temps, c'est ce qui arrive dans... Il n'y a pas une contemplation qui soit le fruit de leur amour d'amitié. La contemplation est plus que le fruit de leur amour d'amitié. La contemplation, l'aimer chacun seul en face de Dieu. Donc, la coopération de l'homme et de la femme cesse pour la contemplation. On peut, la femme peut rappeler l'exigence de la contemplation à l'homme qui a une peine énorme de quitter le point de vue raisonnement rationnel. L'homme a très peur de dépasser sa raison. La femme, par l'amour, le dépasse beaucoup plus facilement. C'est là où on voit très bien la diversité. Oui, dans les voies d'accès, la diversité est très nette. Dans la contemplation elle-même, la contemplation est le fruit de la sagesse, la contemplation de l'homme et de la femme, toutes les deux sont œuvres de sagesse. Or, il n'y a pas une sagesse masculine et une sagesse féminine. Mais dans la voie d'accès à la sagesse, oui. La voie d'accès masculine, la voie d'accès féminine sont différentes. Mais tous les deux, dans la contemplation, sont seuls avec Dieu. Ils ne se présentent pas à Dieu à deux. Il se présente à Dieu à deux pour tout ce qui est de l'ordre de l'activité humaine, de l'agir et du facere. Mais pour la contemplation, non. La contemplation, cette fine pointe de l'intelligence et de la volonté où l'homme et la femme sont seuls en présence de Dieu. Il n'y a pas une contemplation plus parfaite parce qu'ils sont à deux. Dans le point de vue du réconfort, de céder, oui, là oui, dans cet effort constant de la contemplation, il peut y avoir une entraide jusqu'au bout. Parce que comme c'est très difficile, comme ça exige un effort surhumain, il y a une entraide qui est tout à fait normale. Étant donné que la femme, plus vite que l'homme, saisit l'importance de la contemplation. L'homme, très souvent, a besoin de la femme qui lui dit l'importance de la contemplation. Elle voit beaucoup plus vite que l'homme. Et ceci, c'est normal, puisque dans la contemplation, l'amour passe avant l'intelligence. Or, la femme étant du côté de la disposition beaucoup plus développée, un sens beaucoup plus développé, a normalement un sens de l'amour qui est beaucoup plus développé. Et donc, elle va plus vite que l'homme. Elle atteint plus vite le but, le terme. Presque toujours. C'est très rare qu'on voit l'inverse. Mais l'exemple très significatif était avec Maritain Raissa. C'était extrêmement significatif. C'était Raissa qui fournissait à Jacques ses intuitions. Elle le poussait toujours d'aller plus loin. Et c'était très, très curieux, c'était très net. Le contact avec Raissa était beaucoup plus tout de suite contemplatif. Avec Jacques, on sentait qu'il respectait ça, mais qu'il était toujours second. Et on voit ça constamment, je prends Raissa et Jacques, parce que c'est assez typique là, et qu'on en a beaucoup parlé, alors on voit mieux. Mais c'est constamment comme ça. La femme a un sens de la contemplation plus aiguisé qui lui permet de l'atteindre plus vite que l'homme. Mais la contemplation est la même, avec peut-être cette nuance que l'une est plus affective et l'autre plus intellectuelle. Mais les deux sont présents. Vous voyez, je crois que c'est vraiment du côté de la disposition qu'on peut le mieux saisir la diversité du caractère personnel de la femme et de l'homme. Mais, au point de vue nature, au point de vue personne.